Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
10h40 sur Europe 1, les grandes voix qui sont en train de parler pendant la pause. Vous continuez, vous allez parler de la présidentielle. C'est dans moins de 16 mois en France, la gauche et la droite qui avancent en ordre dispersé façon puzzle, comme dirait Audiard. On va d'abord parler dans cette première partie de la gauche. Cette semaine, on a vu Arnaud Montebourg lancer son mouvement Engagement. Enfin, en tous les cas, ses proches qui veulent le lancer. Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui évoque Idées en commun, la plateforme d'idées qu'elle entend lancer très prochainement. Je ne parle même pas de Jean-Luc Mélenchon, déjà candidat. Yannick Jadot, qui dit se préparer pour 2022, qui sera sur le terrain aujourd'hui chez Emmaüs. Est-ce que, Michel Cotta, la guerre des égos va tuer la gauche ? Une fois encore.
C'est évident. C'est évident, mais il est vrai que c'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui a lancé la danse des égos en premier, en se déclarant d'avoir le premier, en sous-entendant que personne d'autre n'avait au fond le droit de se présenter.
Et il a réclamé un vote de 150 000 militants qu'il a eu dès le lendemain.
Mais
ça légitimé. Ça plafonne un peu aujourd'hui. Hein. Je crois qu'on est à 200 000. Ça n'a pas beaucoup avancé depuis le mois de novembre.
Ce qui est nouveau quand même, c'est l'engagement qu'on voit venir de Anne Hidalgo. Oui. Elle avait bien dit pendant sa campagne « Non, jamais, Paris », etc. On voit qu'en réalité, elle s'organise. Elle a autour d'elle beaucoup de relais. Elle compte beaucoup sur les régionales à l'extérieur. Enfin bon, on voit qu'Anne Hidalgo est en avant.
Et puis,
je trouve que l'arrivée de Montebourg n'est pas complètement indifférente. Parce qu'il est sur une position, il me semble, plus aiguë que les autres. C'est-à-dire, une grande partie de son discours, c'est il faut ramener les choses en France, la France d'abord.
Il est un peu souverainiste,
voilà.
Tout simplement.
Pas seulement souverainiste. Oui. Il dit on ne peut pas perdre la souveraineté, y compris sur les médicaments. Ce que tout le monde dit en ce moment, on ne peut pas aliéner complètement. Donc là, c'est un thème assez précis. Et puis, c'est un personnage qui s'est donné une dimension. Maintenant, on voit très bien qu'il ne sera pas soumis aux primaires, lui non plus, le chef du Parti Socialiste semble mettre Anne Hidalgo.
Alors justement, on va l'entendre, Michel Cotta. Écoutez Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, il y a quelques jours chez nos confrères de BFM TV.
Pour le moment, je n'ai pas de candidate, parce que je considère que nous n'en sommes pas encore là. Et que nous devons commencer par travailler sur un projet commun et ensuite de voir qui en est la meilleure incarnation, qui peut nous emmener à la victoire et qui saurait gouverner ce pays.
Mais est-ce que vous souhaitez qu'elle soit candidate à la présidentielle ?
Je pense que ce serait une excellente présidente de la République. Je ne sais pas si elle sera candidate.
Catherine Néan Hidalgo, une excellente candidate pour 2022 à gauche. C'est un bel appel du pied d'Olivier Faure, quitte à fâcher les troupes au sein même du PS.
Troupes, y compris François Hollande, qui se prépare en douce. Laurent Geoffrin a quitté Libération pour préparer la campagne de François Hollande.
Alors, est-ce qu'il faut des primaires à gauche ?
Je ne sais pas, ça c'est leur affaire, j'en sais rien, comment ça va se passer. Mais en tous les cas, Anne Hidalgo est celle qui a le plus, enfin qui se prépare lentement mais sûrement. Voilà. Ça, on voit que c'est une femme organisée, elle veut prendre sa part et tous s'accordent à dire que c'est elle qui en a le plus envie aujourd'hui.
Charles Villeneuve.
On pourrait dire qu'elle a été élue à Paris, réélue très bien, mais elle a beaucoup d'opposants. Et le problème, c'est que si elle se présentait à Paris, peut-être aurait-elle des voix, mais en province, je ne suis pas sûre, parce qu'elle n'est pas connue. Et je ne sais pas si elle draine les voix des écologistes.
C'est pour ça qu'elle hésite.
C'est pour ça qu'elle hésite. Et donc, est-ce qu'avoir été, n'avoir connu que Paris, c'est aussi...
Parce que malgré tout, Catherine Ney et Charles Villeneuve, par exemple, la politique, c'est aussi, vous le savez mieux que moi, aussi de l'arithmétique. Si demain, il y a plusieurs candidats à gauche au premier tour, il n'y en a aucun au second.
La politique, c'est d'abord une dynamique, avant d'être de l'arithmétique. Et on crée une dynamique. Et Anne Hidalgo, elle a créé une dynamique, au moins à Paris, notamment à travers le conseil municipal, les écologistes. C'est ça l'avantage.
Avec
théorique.
Qui elle est au plus mal en ce moment.
Avec attendez, qui elle s'est fâchée.
Attendez, si je peux terminer.
Oui, pardon, excuse-moi.
Je t'excuse.
Magnanime.
Non.
Poursuivez, Charles.
Et donc, c'est ça, c'est l'avantage théorique. Et comme a incisé la remarque de Catherine, c'est qu'en effet, à l'heure actuelle, au sein du conseil municipal, ça chicore, ça se bataille avec les écolos. Mais rien n'est terminé pour l'instant. Mais là où moi je rejoins Michel Cotta, c'est sur la candidature de Montebourg. Montebourg met en avant le patriotisme économique. Et là, nous y sommes au cœur de ce patriotisme économique. On l'a vu avec les masques, on le voit avec les vaccins aujourd'hui. Mais il faut aussi donner un peu d'espoir aux gens. À l'heure actuelle, à l'Institut Pasteur de Lille, il y a toute une équipe qui travaille avec l'aide d'ailleurs de Bernard Arnault, de LVMH, sur le traitement. Et ils sont assez proches de trouver un traitement relativement et même assez efficace sur le Covid, sur la Covid.
Sur la maladie.
Sur la maladie. Oui. Et ça, on oublie de le dire. Alors, je le dis parce qu'au moins, c'est, si vous voulez, injecter dans notre esprit un peu d'espoir.
Vous parliez de patriotisme économique, Montebourg qui le représente, Gérard Carrérou. Est-ce que finalement, il faut se passer de primaire à gauche et qu'un candidat naturel, que ce soit Arnaud Montebourg ou Anne Hidalgo ou autre, émerge?
Écoutez, je ne sais pas s'il y aura des primaires à gauche. Je ne sais pas quel sera le choix fait par les socialistes, notamment. Mais ce que je sais et ce que je sens, et d'ailleurs vous l'avez plus ou moins exprimé, mes trois amis là l'ont exprimé aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui un poids lourd qui s'est dessiné, qui n'est pas encore officiellement candidat, mais tout le monde le pense déjà, et tout le monde sait que c'est un peu la réflexion du pape, combien a-t-il Staline, le pape, combien a-t-elle de divisions? Elle a les divisions, elle a la notoriété, même si elle est marquée parisienne, elle
est quand même. Anne Hidalgo,
elle a une, oui, bien évidemment, il s'agit d'Anne Hidalgo. Elle a un avantage. Elle prend le départ de cette course de 16 mois avec un avantage considérable. Elle a rallié même si les écolos ne sont pas tout à fait faciles avec elle, elle peut les rallier plus facilement que les autres. Et c'est une femme, personne ne l'a encore dit, mais c'est une femme, souvenons-nous, c'est Ségolène Royal, qui avait quand même fait, 48% face à Nicolas
Sarkozy. En
20
secondes, Michel Cotta, vous vouliez ajouter un mot avant la
vous
pause.
Vous parlez de primaire, mais ce n'est pas une primaire. Il y aurait des primaires chez les socialistes, des primaires chez les Verts. Pendant ce moment-là, Mélenchon n'en veut pas. Donc il y aurait 4 primaires, ou 3 ou 4 primaires à gauche.
Organisé.
Donc
c'est les
ridicule.
Sondages qui feront la
Donc
primaire.
C'est ridicule.
La gauche dispersée, la droite n'est pas en reste. On en parle dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Sébastien Guyot.
C'est déjà la dernière ligne droite pour le débat des grandes voix. On parlait de la gauche il y a un instant en vue de 2022. Dispersée, la droite aussi n'est pas en reste. Allez, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, Michel Barnier, Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez. On vise l'équipe de rugby, s'amuse un cadre de LR, nous disait Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1 hier. Catherine Ney, ce n'est pas une liste à la Prévert, mais presque.
Oui, mais enfin là, vous en citez des gens qui ne se sont pas vraiment encore révélés.
Bon,
mais Michel Barnier, comme il est vraiment auréolé de son succès de Brexit, où il a fait un travail formidable, donc de garder avec lui tous les Européens contre l'Angleterre, alors que l'Angleterre a essayé de casser l'Europe.
Surtout Catherine, donc, qu'il a dit qu'il voulait consacrer toute son énergie à la France.
Voilà, alors donc on attend qu'il fasse un peu plus acte de candidature. Alors il y a Bruno Retailleau, il y a Xavier Bertrand. Il y a Rachida Dati qui a dit qu'elle voulait être candidate. Mais enfin, tout ça, c'est surtout pour qu'elle veut qu'il y ait un candidat LR et que, alors que certains pensaient pouvoir soutenir Macron dès le premier tour. Il y a eu ça aussi chez les Républicains. Maintenant, ça n'est plus le cas. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'on n'y voit pas très clair.
Alors,
celui qui a
clair,
pris le plus d'avance, c'est Xavier Bertrand, mais il n'appartient plus au parti.
Alors justement, Xavier Bertrand, il avait fait un préalable de sa candidature à la présidence de la République. C'était sa victoire au régional. Les régionales ont été reportées de mars à juin. Et encore, on n'est pas sûr. C'est un handicap pour lui.
Et il pourrait l'être encore plus.
Et encore plus.
Oui, c'est un handicap pour lui parce que c'était une bonne base de départ. Il espérait, avec son implantation qui a été très, très systématique dans la région, il espérait effectivement un beau succès régional et à partir de là, effectivement, sauter à pieds joints sur la présidentielle. C'est moins facile maintenant. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que Bertrand, il s'est installé parmi probablement le premier des candidats plus ou moins déclarés, mais il n'a pas fait, il me semble, il n'a pas fait le trou décisif qui permet de dire aujourd'hui, ça y est, la droite a un candidat. Au fond, les gens continuent de penser que la droite n'a pas de candidat. Et ça, c'est son principal problème.
Michel Cotta.
Puisqu'on a parlé de la gauche avant, il y a une grosse différence entre la gauche et la droite. Pour la gauche, Emmanuel Macron est le candidat de la droite. Par conséquent, il y a une union objective. Oui. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais... Tandis que la droite, c'est plus difficile. Parce que la droite est coincée entre un candidat comme Macron, qui n'est pas un candidat de gauche. Hein. On sait maintenant que ce n'est plus un candidat de gauche. Donc la droite est coincée entre un candidat qui est
de
presque
centre
de droite,
de centre-droit,
et une Marine Le Pen. Donc leur équation est vraiment encore plus difficile, si j'ose dire, que la gauche. Et plus problématique parce que, oui, où est Macron aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut nous dire où en est Macron aujourd'hui dans l'esprit des gens?
Reste qu'à droite, on
chacun
reste...
en a sa part et tout selon tout entier.
On reste optimiste à droite malgré tout. Écoutez, Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains.
Ceux qui, généralement, doivent remporter les élections présidentielles ne les remportent jamais, et ceux qui ne doivent pas les remporter les remportent. Donc, pour 2022, nous avons de bonnes chances de l'emporter si nous suivons cet adage.
Charles Villeneuve, c'est la méthode Coué, ça?
Ah oui, enfin, moi je crois. Non, mais moi, ce que je trouve, c'est que la droite, ce qui est vrai, vit son automne à l'heure actuelle. Mais vous savez, à l'automne, on élague, de toute façon, les arbres. Pour qu'ils repoussent
après,
un peu
l'hiver.
Plus au printemps.
Manque de
peau. Oui, mais l'hiver...
Et
oui,
pas le printemps.
Oui, 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 mais d'accord. Mais l'automne et l'hiver, de toute façon, coïncident quasiment et se collent à la même époque. Mais il y a déjà, si vous voulez, deux gros candidats qui ne sont plus en course, me semble-t-il. C'est Nicolas Sarkozy et François Baroin. Il reste trois, vraiment. On y ajoute Barnier, comme vient de le dire, mais Barnier... pour l'instant, n'est pas candidat.
Donc les trois pour sache. Vous, c'est Xavier Bertrand.
C'est Bertrand qui a
qui
un
n'est
avantage.
Pas LR.
Bon, certes, s'il n'y a pas les régionales, ça peut être un handicap, mais il est quand même très implanté dans les Hauts-de-France, dans le Nord, et c'est un handicap relatif. Il y a Valérie Pécresse,
président de la région Île-de-France.
Sa toile dans la région Île-de-France est assez bien, indéniablement.
Très bonne présidente.
Bon, absolument. Et puis, il y a Bruno Retailleau. Bon,
il y a trois. Primaire,
alors, et primaire, mais primaire, c'est un désastre. Les primaires, on sait très bien que ça divise non seulement le parti et ça radicalise
les sympathisants.
Bon, et les sympathisants.
Et ça donne des outsiders. Parce qu'il y a des gens de droite, comme ils sont à la recherche désespérée d'un candidat,
d'un chef.
Oui. Ils cherchent un chef. Et alors, on entend quand même beaucoup parler. De Sarkozy, il ne faut pas le nier que dans les...
Parce
dans
que certains... pour vous, Sarkozy pourrait faire un retour.
Non, pas pour moi. Je vous dis ce que j'entends.
Non.
Et parmi
vrai,
l'électorat de droite, les gens disent « Ah, mais s'il n'y a que ça, etc. À la limite, pourquoi pas Sarkozy? Il est encore jeune, etc. » Oui, il parle même aussi des De Villiers, le général et son frère. Enfin, oui. Il y a des tas de oui. noms qui
Mais enfin,
qui
le
sortent.
Parquet, pour Nicolas Sarkozy, le parquet national financier trouve quasiment toutes les semaines une raison
pour l'empêcher
de le poursuivre, pour entraver, comme si... Il y a presque... un acte politique du parquet national financier
pourquoi
permanent.
Absolument, c'est un acte permanent.
En tous les cas, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte hier pour Russell vis-à-vis de liens qu'il avait éventuellement avec la Russie sur des activités de conseil. Michel Cotta, un dernier mot.
La chance de la droite, c'est quand même la faiblesse actuelle et relative de Marine Le Pen, qui n'a pas engrangé tout ce qu'elle aurait pu engranger, tout ce qu'elle voulait engranger, et qui en plus est contesté dans son propre camp.
Elle garde les mêmes faiblesses
congénitales. C'est ça la chance de la droite traditionnelle par rapport à l'extrême droite.
Elle garde les mêmes faiblesses congénitales qu'elle avait malheureusement pour elle. Malheureusement pour elle, il y a quelques années. Donc.
Marine Le Pen qui fête ses 10 ans aujourd'hui à la tête du Rassemblement National. Alors est-ce qu'un duel Le Pen-Macron est inéluctable? Je ne vais pas vous demander la réponse tout de suite. On verra ça une prochaine fois.
Le brun et le rouge.
Le brun
et le
rouge.
On verra qui sera là au lendemain du premier tour.
Oui.
Donc j'attends le premier tour, moi.
On a encore un peu de temps. Pour l'heure, 10h56, et on parlera de la droite demain encore sur Europe 1 avec Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, qui est l'invité du grand rendez-vous demain à 10h. Merci
aussi,
les grandes voix.
On aurait pu le mettre dans la liste.
Hein. Oui, oui.
Oui,
merci les grandes voix.
Avantageusement, peut-être d'ailleurs.
Pour votre participation à ce débat. Depuis 10h et c'est déjà malheureusement la fin. On se retrouve samedi prochain dans un instant, la table des bons vivants avec Laurent Mariotte, bien sûr, au programme. Bonjour Laurent.
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix. Aujourd'hui, nous allons explorer une région. On va passer la Touraine à la casserole, des rillons aux poires tapées en passant par les poissons de Loire. Vous allez voir que la région est très riche, comme on dit en cuisine. Et puis nous recevrons la journaliste et bonne vivante Anne-Elisabeth Lemoine. A tout de suite.
A tout de suite.